With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Benoît Saint-Denis. Bon bah voilà, on était déjà venu au Venom Training Camp et là, bah on se rencontre en vrai finalement, enfin en vrai, en distanciel, donc on est à quelques jours de ton combat. Merci Benoît de nous accorder cette interview.
Bah écoute, de rien, ça me fait plaisir, c'est important d'avoir des gens qui sont passionnés et puis qui nous suivent et nous soutiennent quoi, donc c'est super sympa de vous avoir.
Oh bah. Formidable. Bah, je vais commencer directement. Bon, première question finalement. Là, toi, aujourd'hui, tu es un des noms qui monte vraiment dans le MMA en France et puis même, j'ai envie de dire, en Europe et au-delà. Est-ce que là, tu commences à le sentir un petit peu ?
Écoute, je sais que les performances qu'on réalise avec Daniel jusqu'à présent, elles sont de qualité et j'espère encore faire une super performance ce dimanche. Et ouais, bah je pense que ça se met quoi, performance par performance. Quand tu commences à enchaîner les bonnes performances, tu commences à être à avoir une réputation qui grandit. Donc ouais, je suis fier du parcours accompli jusqu'à présent.
Et bon. Bien évidemment, on commence à se dire pourquoi pas le titre. Est-ce que toi, là, tu commences aussi à y penser au titre du Brave ?
Pour tout te dire, au dernier combat, c'était déjà un combat contre l'ancien champion du Brave, donc, qui devait déterminer le contender numéro 1, donc, que j'avais remporté au deuxième round sur un bras-tête. Et je pense que là, oui, la ceinture du Brave, je pense qu'elle est... Elle n'est pas loin. Si je confirme avec une belle performance ce dimanche, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment envisageable à court ou à moyen terme. Mais là, je suis vraiment focus sur ce fight parce que c'est toujours il y a des fights. Il faut arriver à être excité pour n'importe quel combat pour vraiment donner une belle performance. Peu importe l'adversaire, et donc je respecte mon adversaire, je suis content qu'il ait accepté, et je suis content d'avoir un combat, parce que malheureusement, le combat qui devait se faire avec Eldar pour la ceinture a été un petit peu repoussé, donc j'espère prouver que j'ai mérité cette place de contender, et puis par la suite, pourquoi pas pouvoir aller ravir le titre à Eldar, ça serait super.
Tu te mouilles pas trop pour la suite, en tout cas, mais est-ce que t'imagines, je sais pas moi, une date pour un retour potentiel. Est-ce que tu as déjà un plan assez clairement défini ? Parce que là, mine de rien, avec ton bilan d'invaincu, 7-0, tu commences à faire un petit peu de bruit. Est-ce que là, tu penses à l'UFC, tu penses à une autre organisation, ou tu es vraiment combat par combat ?
Alors en fait, tu as toujours des objectifs à court terme et à long terme et... En fait, oui, à long terme, je pense que le rêve de tout combattant, c'est de prendre des ceintures dans les plus grosses orgas. La plus grosse, c'est l'UFC. Donc, à long terme, entrer dans l'UFC, j'espère un jour rentrer à l'UFC et puis tout déboîter là-bas. Quoi. Ça serait vraiment, je pense que c'est l'objectif de tout combattant qui veut faire une longue et prolifique carrière. Mais là, en fait, comme je suis très, très proche du combat, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter parce que là, je suis vraiment focus sur ce combat du dimanche parce qu'on on en approche vraiment là. Donc, je commence à sentir un petit peu et demain, c'est le cutting. Enfin, même si je n'ai pas énormément à côté, c'est le cutting, entre guillemets. C'est la journée où tu perds ton poids. Et samedi, la pesée et le face-off. Donc, ça va arriver très vite.
Et bon, t'as dit un jour, t'aimerais bien aller à l'UFC. Ça fait pas longtemps que, mine de rien, que t'as débuté chez les professionnels, en tout cas en MMA. Est-ce que là, toi, ça commence à devenir, j'ai envie de dire, une réalité dans le sens où tu t'entraînes au Venom Training Camp, t'as la chance d'avoir, de bénéficier d'une grosse infrastructure. T'as Daniel Warren qui est ton coach, donc qui lui aussi a une énorme expérience au plus haut niveau, donc à savoir quand même avec des champions UFC. Est-ce que là aujourd'hui vous avez déjà des discussions? Est-ce que tu arrives à te placer par rapport au top monde, enfin au top mondial, tu sais, quand tu regardes soit le classement welterweight ou soit toi par rapport quand tu fais du sparring et tout, tu te dis est-ce qu'il manque quelque chose par rapport aux combattants UFC? Est-ce que justement c'est ce qui fait que tu te dis j'aimerais bien y aller en un jour parce que soit tu connais ton niveau et tu te dis il me faut encore 2-3 ans ou alors c'est juste que tu es prudent?
Non, en fait, l'UFC, c'est une organe comme une autre. Après, il faut le prendre comme ça, hein, les fighters qu'il y a à l'UFC. Là, le dernier combattant que j'ai pris, il avait des victoires sur pas mal de vétérans à l'UFC. Il avait 15 victoires, 12 par KO, 4 défaites. C'était un mec qui était bien coté, un Brésilien qui a affronté plusieurs gars de l'UFC, qu'on a battu certains. Non, en fait, voilà. Et j'ai eu l'occasion de faire des camps d'entraînement avec des mecs de l'UFC d'ailleurs qui m'avaient j'ai un Italien qui m'avait appelé Alessio Di Chicchiro pour l'aider à préparer un gaucher qui est un poids moyen à l'UFC. Donc je me suis déjà testé avec des sparring de très haute qualité à la BTT. J'ai eu l'occasion de me tester aussi avec des mecs de qualité, des mecs comme Carla Mousseau, Amina Youp qui est aussi un bon calibre, Fares, des mecs très solides. Donc réellement, je pense que le niveau de l'UFC, il monte au fur et à mesure que tu montes dans les rankings, mais c'est quelque chose qui est, oui, que moi, réellement, j'envisage et je pense que le niveau, il est atteignable. Après, comme je te disais, c'est toujours difficile de parler de ça quand tu es si proche d'un combat. Là, je me dis, voilà, là, je prends un gars, il faut que je le déboîte parce que... Sinon, on pourra plus avoir cette discussion, en tout cas pas tout de suite, quoi. Donc, le but là, ça va être vraiment de vraiment de faire une super prestation dimanche, une grosse guerre comme j'aime bien faire, et puis d'en sortir vainqueur. Et après, bien sûr, je pense que oui, le palmarès au fur et à mesure. Effectivement, je suis invaincu, mais j'ai aussi que des finishes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, qui est recherché. Donc j'espère que ça va payer. Le travail, il paye toujours de toute manière. À terme, l'excellence, ça paye toujours.
Hélas,
Donc,
toi,
attends.
ce qui me surprend un peu, on va dire avec toi, parce que comme tu l'as dit, tu n'as que des finishes en carrière, tu es invaincu, mais tu restes un peu sous les radars, je trouve. Est-ce que toi, tu es aussi de cet avis-là, ou par rapport, on va dire, aujourd'hui, quand on parle des prospects, tu n'as que 25 ans en plus, donc quand même, mine de rien, tu as toute une carrière encore devant toi, mais tu as l'air d'être sous les radars. Toi, comment t'expliques ça?
Peut-être parce que la médiatisation autour de la salle, le Venom Training Camp, effectivement, c'est une grosse infrastructure, mais la team professionnelle, Daniel, il aime beaucoup travailler sur du qualitatif, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de pros, quoi. On est entre 5 et 10 pros, et il y a vraiment 3-4 pros dont Daniel s'occupe à temps plein et qu'il est en train de faire monter petit à petit. On a Mathieu et Jory qui tous les deux sortent d'une victoire, avec Mathieu la victoire la plus récente là, au FFA sur un samboïste qui était très solide là, sur Louis Laurent. Donc non, je pense que c'est, oui, voilà, c'est le côté, c'est peut-être une salle qui est un petit peu moins médiatisée que par exemple le MMA Factory qui a une écurie en plus grand nombre, qui a plus de monde. Il y a d'autres. En fait, il y a plusieurs grosses écuries en France, comme la Snake Team. Il y a Hobby Fight, il y a Venom Training Camp, il y a MMA Factory. Mais je pense que nous, on a une écurie très qualitative, mais effectivement, qui, de par le peu de volume qu'on a, fait que malgré le fait qu'on ait des combattants qui sont vachement actifs, on essaye de combattre régulièrement. Parce que je pense que si tu veux être combattant à temps plein, il faut se donner les moyens, donc il faut arriver à enchaîner les échéances. La première année, d'ailleurs, j'avais réussi à combattre 6 fois en 11 mois. Donc ça m'avait vraiment créé une grosse ascension. Après, quand on rentre dans une grosse orga comme le Brave, on est bien sûr un peu plus freiné parce que les événements sont, il y a un build-up derrière les événements. avec un matchmaking, il y a des, y a énormément de fighters à faire combattre, qui fait que ben, on combat un peu moins souvent, et il y a le Covid aussi qui s'en est mêlé. Donc j'espère retrouver un peu plus de régularité en termes de combat. Et oui, bah, la question là sous les radars, je pense que de toute manière, ça va venir avec le temps. Je pense que si je continue à faire des bonnes performances, ça va venir. Il y a d'autres mecs aussi qui sont très bons, je pense, qui effectivement passent un petit peu sous les radars aussi, parce que aussi, il y a aussi la question des catés de poids. Les poids lourds, par exemple, sont beaucoup plus médiatisés que les autres catés. Mis à part, par exemple, les 70 kilos, qui sont pour moi la caté reine à l'UFC, parce qu'il y a toutes les grandes superstars qui sont là-bas. Mais sinon, en général, un poids lourd, quand il débute sa carrière, ça peut aller très vite. Poids lourd léger, ça peut aller très très vite. Poids moyen, un peu moins vite, mais ça peut aller vite quand même, parce qu'il y a pas. C'est des mecs, c'est des beaux bébés, quoi. Même un poids moyen, c'est un mec qui fait plus de 90 kilos hors combat. Donc, c'est des mecs qui sont assez rares à trouver. Donc, quand on a une qualité médiatiquement, tu peux le faire monter assez vite. Donc, voilà, moi je pense que je suis dans une caté qui est super passionnante, parce que tu as énormément de tueurs à gages. Les 70, 77, c'est vraiment deux catés qui sont super cool, parce que voilà, tu as des mecs super complets, super durs. Je pense que c'est les deux catés peut-être qui sont les mieux médiatisés aussi, avec les 66 au très très haut niveau. C'est-à-dire quand tu as la ceinture de l'UFC dans cette caté-là, je pense que tu es au top du top. Mais par contre, pour se faire connaître, ouais, il faut beaucoup beaucoup de fights, et pour rentrer dans les gros circuits, il faut enchaîner des victoires. Je pense qu'il faut des gros palmarès pour arriver à rentrer dans ces petites catégories-là, dans des orgas comme l'UFC ou d'autres gros orgas.
Et comment tu juges, toi, plus globalement, on va dire, le Brave en tant qu'organisation? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que c'est une organisation passerelle vers ensuite d'autres ambitions, que ce soit UFC ou Bellator, ou une organisation où tu te vois, toi, potentiellement continuer encore longtemps?
Moi j'étais super content que le Brave me contacte après mon quatrième combat, parce que c'était vraiment passé à autre chose. J'ai quand même vu la différence entre mes quatre fights et le Brave, qui est une orga qui est gérée, on va dire, qui a une gestion des fighters et de la logistique qui est pas très loin de celle de l'UFC. En termes de logistique pure, même si bien sûr les salaires et tout, on est sur un orga, je pense, comparé à l'UFC, qui est intermédiaire, effectivement. Mais en termes de visibilité et tout, on est dans un orga du top 10 mondial. Donc on est sur une grosse orga qui quand même permet de passer une échelle en visibilité. Je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans le Brave, tu rentres sur des adversaires, des ex-UFC, des ex-Bellator, des ex ou des jeunes qui montent. Des prospects, donc tu rentres vraiment dans la cour des grands au niveau international, je pense. Et donc non non c'était pour moi c'était une super opportunité, et je suis content d'y être. Alors oui, j'aimerais le plus vite possible combattre pour ce fameux titre, parce que c'est quelque chose qui est prestigieux, un titre, peu importe l'organisation. Mais le focus là, il est sur un certain Arcaíce Ramos, et il est sur dimanche.
Et plus globalement, là, si on revient un petit peu en arrière, toi justement, tu étais dans l'armée. Là, aujourd'hui, tu es pleinement concentré sur ta carrière de MMA, ou justement, tu as aussi, tu gardes toujours un travail à côté. Est-ce que tu arrives justement à balancer les deux si c'est le cas?
Alors, je dirais que je suis à 90% MMA, voire 80-90%, ça dépend des périodes, et à 20% encore dans le militaire en ce moment, en tout cas. Donc, je garde un pied dedans, en fait, via le tir, via la sécurité privée avec Chiron Solutions, qui est une boîte avec laquelle je travaille pas mal, parce que le PDG de cette boîte, c'est aussi un ancien FS qui gère cette boîte, et un ami. Donc non, ça m'arrive de travailler quand même, mais on va dire que ouais, j'ai quand même 80% du temps dans l'année, 8 mois sur 12, c'est fight.
Et tu dirais qu'aujourd'hui, ça justement, toi, ça t'aide dans ta carrière de combattant, ou c'est quelque chose, on va dire, pour rester un petit peu dans un cadre de vie un petit peu plus réel par rapport au sport de combat?
Bah déjà, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que moi, j'aime bien le métier des armes en général. pas que le à main nue, le MMA, quoi, parce que le MMA, pour moi, c'est le roi des sports de combat, quoi. Mais ouais, il y a aussi l'aspect armement que j'ai appris à aimer, à aborder quand j'étais dans les forces spéciales au premier APMA. Non, je garde un pied dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît toujours autant et qui est intéressant. Effectivement, ça permet de garder aussi, ouais, les pieds sur terre de temps en temps. Et ça m'a beaucoup apporté, je pense, d'avoir fait 5 ans là-bas. Je m'étais engagé tout jeune. Ça m'a donné une certaine maturité, un certain recul sur de la patience, je pense, et un certain recul sur la gestion d'une carrière. Parce que c'est vrai que la patience, c'est quelque chose dont il faut s'armer quand on est combattant. Parce que tout se déroule pas toujours comme prévu. Et les échéances, elles ne sont pas faites à ta mesure. C'est à toi de t'adapter. Donc, il faut faire avec.
Et
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me repositionne. Et donc là, pour la suite, toi, t'es donc là en welterweight, t'as parlé potentiellement de la catégorie des 70 kilos. Est-ce que toi, c'est quelque chose là où t'en discutes avec ton coach et où vous êtes en train de vous dire plus les échanges vont monter et plus la compétition va être importante et donc pourquoi pas avoir un avantage, on va dire, en taille, ou c'est plus quelque chose où là, toi, tu te dis pourquoi pas essayer d'évoluer dans les deux catégories en simultané?
Non, c'est au niveau du poids, en fait, je me suis rendu compte parce que j'ai tourné avec des welterweights de l'UFC,
Voilà.
des mecs comme Khamzat Chimaev qui sont autour de 90 kilos hors saison. Donc, en fait, je me rends compte qu'à 80 kilos, c'est pas ma caté au très très haut niveau, quoi. Top 15, donc oui, il y aura des sacrifices à faire pour faire 70, mais c'est quelque chose qui est faisable. Là, je suis d'ores et déjà dans une caté au Brave qui est une caté dont ils ont beaucoup parlé à l'UFC, mais qui s'est finalement pas faite, les super lightweight. Donc, qui est la caté des 74,8 kg. Et donc, c'est encore la caté dans laquelle je vais combattre ce dimanche. Et donc, là, ça va faire le troisième combat que je fais dans cette catégorie de poids. Et c'est un poids que je fais, on va dire, assez aisément encore. Donc, je pense que lightweight, ça sera envisageable. Ouais, mais par contre, ouais, il y aura des. Ça va être dur comme ça va être un vrai cutting, mais je pense que c'est envisageable.
Et tu t'es posé la question. Vas-y, pardon, vas-y.
Non, 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 vas-y, vas-y, je
Oui,
t'en prie.
c'était. Et est-ce qu'à l'inverse, tu t'es posé la question de te dire pourquoi pas prendre aussi du poids pour être un vrai 77? Parce que je pense que ça peut être. Enfin, bon, je me mets à ta place, hein, mais peut-être que tu n'as pas du tout eu cette réflexion-là, de te dire, bah, t'es à cheval finalement entre deux catégories, et en plus là, tu as le bénéfice de l'expérience, là où tu te dis, ça marche, je n'ai que des finishes.
Bah écoute, oui, c'est un truc. Moi, je suis pas contre rentrer en fait. Enfin, je suis pas contre des combats au welterweight. Juste effectivement, welterweight, je le vois plus pour le moment, en tout cas, je le vois plus comme des opportunités de short notice que comme une opportunité de fight à très haut niveau. Après, si avec le temps, je vois que je prends du poids et tout, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on repensera. Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, il y a des combattants qui prennent du poids, d'autres non. Ça dépend de pas mal de paramètres. Mais non, je suis ouvert pour l'instant. Mais enfin, les deux KT pour l'instant auxquels j'ai un peu goûté, c'est sur lightweight, super lightweight et welterweight. Pour l'instant, c'est les trois KT qui me paraissent faisables en termes de poids. Donc non, non, je ne suis pas fermé. Je suis pas fermé au welterweight.
Et est-ce que pour quelqu'un comme toi qui justement aujourd'hui cut pas énormément, le cutting est une appréhension dans cette perspective d'évoluer durablement en 70 kilos et où tu te dis bah c'est un moment qui va pas être agréable à passer et encore moins que maintenant finalement.
Alors, j'ai voulu me tester, je l'ai fait au dernier combat. Je m'étais testé un petit peu, j'avais pas fait trop de régime ni
Ok.
rien. Donc, j'avais testé un peu pour voir comment ça se passe, la perte de flotte. Donc, ça s'était bien passé. J'avais perdu, je crois, 4 kilos à peu près de flotte. Donc, j'ai vu 4 kilos, ça allait. C'était pour un peu me rendre compte. Donc, oui, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Hein, c'est quelque chose qui est agréable pour personne. Mais voilà, c'est un sacrifice qu'il faut être prêt à faire pour, à un certain niveau. Je pense que par respect pour l'adversaire, c'est un sacrifice qu'il faut être prêt à faire. Après, bien sûr, il faut, c'est à double tranchant, il faut bien le faire. Et il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui se loupent et tout. Il vaut mieux être à 100% dans une caté au-dessus qu'être à 80% dans la caté du dessous, ça c'est sûr et certain. Après, si tu peux être à 95% dans le juste milieu, c'est parfait.
Et quand tu vois les Khamzat Chimaev, comme tu as mentionné, qui sont à 90 kilos quand ils sont hors période de combat, est-ce que ça, toi, tu trouves que c'est quelque chose de normal, on va dire, pour le sport, ou toi, tu préfères justement être proche de ton poids de combat en période off?
Bah, en fait, c'est vrai que le cutting, c'est quelque chose qui détruit un peu les corps et les organismes. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront à trouver un système intelligent pour limiter les dégâts que ça cause. Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est agréable, ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour la santé. C'est quelque chose qu'on fait à un niveau professionnel, à un certain niveau. Donc, bah, j'espère qu'un jour, je sais qu'au One, ils ont mis un espèce de système en place. J'avais entendu parler comme quoi les mecs étaient pesés longtemps avant pour voir régulièrement s'ils dépassaient, ils ne devaient pas dépasser un certain poids. Donc, ouais, j'aimerais bien qu'ils trouvent peut-être un jour une solution de manière à ce que on soit plus sur une diète et une très légère déshydratation que sur vraiment ce processus de chemin de croix un peu. Du cutting actuel qui est vraiment pas agréable et qui pour certains athlètes est vraiment dur parce qu'il y a certains athlètes qui sont un peu entre deux catés. Bah, Khamzat par exemple c'est un peu le cas parce qu'il 84 il se sent bien aussi, il n'est pas trop léger non plus mais il est capable de faire 77 alors peut-être qu'il se demande s'il n'est pas trop léger peut-être par rapport à un Paulo Costa ou à un Luke Rockhold ou un mec comme ça. Voilà, c'est un des mauvais trucs du MMA, c'est vraiment ces pertes de poids et ces pesées. C'est vrai qu'un jour, si un jour ça s'améliore, ce serait une bonne chose.
Et donc toi, tu t'es engagé très jeune dans l'armée, tu es ensuite passé au MMA par rapport à énormément. Tu es dans une catégorie en plus, enfin dans des catégories de poids où il y a énormément de monde et où justement par rapport aux catégories, on va dire light heavyweight et heavyweight, c'est moins ouvert. Mais pourtant, tu as fait une entrée fracassante dans le monde professionnel. Comment t'expliques ton succès plus globalement et cette ascension assez fulgurante par rapport à pas mal d'autres athlètes ou combattants qui, eux, font ce sport-là depuis des années et des années?
En fait, je pense que ça a été vraiment un truc de passionné, en fait. Moi, j'ai repris les sports de combat en 2017. Et en fait, j'avais fait du judo quand j'étais gosse, de 10 à 16 ans. J'avais eu ma ceinture noire. J'avais arrêté parce que je voulais m'engager dans l'armée. Le judo, ça casse pas mal. Je fais pas mal de petites blessures. Et puis, j'étais dans un club qui était un compétiteur, mais un peu à la. En fait, c'était pas un sport étude, mais c'était un peu particulier. Et du coup, je me suis consacré sur la préparation pour les forces spéciales. Du coup, j'ai fait mon petit parcours dedans. Et à l'issue, en fait, en 2017, je crois que j'ai rentré du Mali et je me suis vraiment pris de. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien chez Christophe Savoca, qui d'ailleurs va me coacher ce week-end en sol, qui est mon coach de sol, mon premier coach de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, rapidement, je me suis passionné par ce sport. Très rapidement, j'ai fait une compétition blanche. Quand tu es ceinture noire de judo, forcément, tu as de grosses bases. Donc, rapidement, j'ai gagné des compétitions, passé des grades. Et après, je me suis intéressé au pied-point un peu après. Et pareil, je me suis pris au jeu. J'avais dans la salle notamment Stéphane Susperighi, qui est un combattant qui est au Glory,
Du glory, ouais.
en 95, qui est super fort, qui m'a mis mes premières raclées en pied-point à l'époque quand je commençais. Et en fait, du coup, bah, j'étais vraiment super content de bosser avec des mecs de qualité comme ça. Donc, j'ai eu un apprentissage qui a été rapide. En fait, fin 2018, enfin mi-2018, j'ai passé des sélections. Je me suis dit, tiens, j'aime bien le sol, j'aime bien le pied-point, pourquoi pas mixer? Ça s'appelle le MMA. Et du coup, bah, mon coach de sol m'a parlé de sélection au Venom Training Camp. À l'époque, il y avait des sélections pour la Team Pro. Je les avais passées. Comme j'étais encore en contrat avec l'armée, Daniel m'a pris, mais il m'a dit, finis ton contrat et rejoins-nous après, on te prend dans l'équipe. Et du coup, je suis arrivé en janvier 2019. Là, j'ai réellement commencé le MMA en janvier 2019 avec Daniel Warin. Et au bout d'un mois, j'ai fait mon premier combat pro, sachant que j'avais déjà 3-4 mois de pancrace dans les pattes parce que j'avais commencé à m'entraîner en pancrace au club où il y avait le pied-point. Mais vraiment, le MMA, oui, avec le frappe au sol et et toute les vis et ce que ça présente, j'ai vraiment commencé ouais, en 2019 avec Daniel.
Et
Fin 2019.
dès ce moment-là, c'est là que tu t'es, enfin, t'as tout investi vers le MMA dans le sens, tu t'es dit, je vais pas avoir entre guillemets de plan B, mais ça va devenir mon métier aussi à ce moment-là.
En fait, ouais, ça s'est fait. En fait, j'ai fait les sélections. Il y avait des mecs durs comme Ilyes Jiroun, Alioune, il y avait Jory qui avait enfin, des mecs solides et je me débrouillais bien. Donc, je me suis dit, bah écoute, c'est un truc que j'aime, je vais tenter l'aventure. J'ai tenté l'aventure. À l'époque, bon, à l'époque, je n'étais pas fiancé, mais bon, je me suis dit, je tente l'aventure et j'étais tout seul. Je me suis pris un appart de location à Paris. Et voilà, j'ai tenté l'aventure, quoi. Et premier combat, j'ai gagné. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, je lâche pas. Et après, j'ai enchaîné les fameux 6 combats en 11 mois. Et ça s'est bien passé. Donc, à partir du moment où j'ai signé au Brave, là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, les primes et l'ambiance et l'entourage des événements fait que ça me paraît être possible de faire une carrière professionnelle. Et voilà. Donc, après, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi.
Ok, d'accord. Ouais, enfin, quand même, c'est que c'était à la base quand tu as dû prendre la décision, ça devait être un petit peu compliqué quand même, non?
Ouais, bah, en fait, ce qui était dur, c'est de lâcher un boulot que j'aimais quand même,
Ouais.
bien rémunéré, avec un statut particulier, pour un premier combat où j'ai été payé 300 balles en Suisse, quoi. Donc, ouais, effectivement, ouais, non, au début, c'est un projet. Je savais que c'était un projet un peu comme mon petit frère est étudiant en médecine, et lui, c'est super, assez dur aussi, en fait, et ça paye que très tard. Mais les premières années sont très dures et tu as les fruits de ton travail assez tardivement. Bah, le MMA, c'est pareil. En fait, si tu lâches rien, tu vas avoir les fruits de ton travail, mais ça arrive, c'est vrai, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut être rapide, mais ce n'est pas non plus du jour au lendemain. C'est des années. C'est des années de travail. Personne n'y arrive sans des années de labeur parce qu'il faut monter le palmarès, il faut s'améliorer, il faut être au niveau des meilleurs et voilà. Donc, il y a
Mais
plein de choses à faire.
par rapport à ça, là aujourd'hui, tu es toujours dans le grind et justement ce processus d'arriver, d'atteindre les sommets et d'être. Et là pour l'instant, ça reste, même si tu es au Brave et tout, ça reste assez compliqué. Toi en fait, tu apprécies ces moments-là parce que même dans ton métier auparavant, tu étais aussi dans ce même processus-là où même si tu gagnais bien ta vie, c'était. Enfin, tu allais quand même au charbon, quoi. Et là, c'était de retour dans ce. C'est pas du tout le même univers, bien évidemment, mais là aussi, il faut cravacher pour pouvoir y aller. Et toi, c'est quelque chose que tu apprécies, ça?
Oui, bah oui, j'aime bien le côté. En fait, ouais, ça prend beaucoup de ton temps, mais c'est un travail qui est passionnant. Donc, en fait, si j'aime beaucoup ce côté-là de travailler dur pour gagner peu au début, mais au fur et à mesure du temps, c'est l'inverse qui se passe de plus en plus, quoi. Donc, non, non, ouais, c'est vrai que c'est. En fait, si tu es passionné par ce que tu fais, tu peux que être bien dans ta tête et dans ta vie, quoi, normalement.
Et ça va être ma toute dernière question. Donc, tu as eu énormément de combats sur la première année. Là, le Covid a un petit peu stoppé tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose? Et puis forcément, plus tu vas gagner des victoires, tu vas être titré. Ensuite, tu vas être dans d'autres organisations. Si tu es champion UFC, tu n'as que 2-3 combats par an. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Enfin, est-ce que tu apprécies de combattre énormément dans l'année ou c'est parce qu'il fallait être actif que tu as été actif finalement?
En fait, je voulais rapidement arriver à un niveau qui me permettait d'avoir de pouvoir préparer un camp d'entraînement et d'être serein au niveau financier, un minimum, quoi, d'avoir suffisamment de retombées pour rembourser ton coach, ton encadrement, ton camp d'entraînement. Ça, c'est ce que me permet de faire le Brave actuellement. Et l'étape suivante, après, c'est vraiment de pérenniser ça. Donc, je pense que ça, c'est l'UFC qui peut te permettre de faire ça. C'est-à-dire de gagner des sommes d'argent qui permettent de, sur le long terme, en fin de carrière, t'as pas de, si t'es pas bête, tu t'as pas à réfléchir à une reconversion, quoi. Normalement, elle est écrite, quoi. Donc, non, oui, au début, moi, j'aime être actif. Je vais pas te le cacher. Pour l'instant, je suis jeune, j'aime combattre. C'est vrai que j'aimerais bien combattre 4 fois par an, tous les ans. Après, voilà, avec le Covid, là, ça l'a vachement ralenti. Donc, j'espère que le rythme va de nouveau un petit peu se débrider, parce que je pense que c'est quelque chose qui est faisable pour un combattant hors combattant du top 15. Même à l'UFC, hein, les combattants qui ne sont pas dans le top 15, s'ils enchaînent les victoires, en général, ils arrivent à enchaîner 3-4 combats par an les 2 premières années de leur contrat. Et après, en fonction des performances, ils peuvent arriver dans le top 15 assez rapidement.
Complètement. Monsieur Saint-Denis, merci beaucoup
merci à
pour
toi.
ces
Merci.
30 minutes d'interview. Et puis, c'est à suivre au Brave, 1er août. Il y a des Français, ça va être formidable. Bon courage et puis l'ascension
Super.
continue. Hein.
Merci, Os.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.